Je m'appelle Audrey Guillet, j'ai 44 ans, je suis journaliste et autrice depuis 22 ans. J'ai voulu être journaliste quand j'ai eu 15 ans, quand j'étais au collège, j'ai voulu être journaliste. C'était vraiment mon rêve, je voulais que ça, il n'y avait pas d'autre chose qui m'intéressait, je voulais être journaliste, en presse écrite. Et donc on m'avait dit, bah ouais, maintenant... Les femmes peuvent faire tous les métiers qu'elles veulent, il n'y a aucun souci, il faut juste être brillante à l'école. Donc bah parfait, moi j'étais bonne à l'école et donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait classe prépa et puis ensuite j'ai intégré une école de journalisme à Paris. Et puis je suis sortie de là en étant persuadée que ce serait hyper simple pour moi de rentrer dans le monde du travail puisque j'avais joué selon les règles quoi. J'ai eu un choc en sortant des études, de l'école. Parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur de rentrer dans le monde de la presse que ce qu'on m'avait dit en fait quoi. Moi ce que je voulais être c'était évidemment reporter dans le monde quoi. Bah ça c'était que des postes pour des mecs de plus de 40 balais quoi, mais pas pour une fille de 20 ans. Et donc petit à petit j'ai commencé à me dire bah, c'est bizarre, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé du métier en fait, j'avais pas compris. Donc j'ai commencé à bosser en CDD à Rennes, dans la presse. Et puis bah, j'ai fait 2-3 ans de CDD comme ce qui était légal. Et puis après bah, il s'agissait de savoir si j'allais être embauchée par ce journal-là. Donc j'aurais été dans une plus petite ville encore, dans l'Ouest. Parce que les embauches de jeunes journalistes, c'est tout le temps à 80% dans des petites villes, dans ce journal-là. Et puis alors là, je me suis dit, mais en fait, attends, moi, je me voyais reporter partout dans le monde, et puis là, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai décidé de devenir journaliste pigiste, c'est-à-dire journaliste indépendante, avec une spécialité, il y a quand même une petite spécificité, c'est qu'on reste salarié en fait. Quand on est journaliste pigiste, on a une loi très protectrice qui s'appelle la loi Cressard, qui nous permet d'être salarié multi-employeur. Donc en fait, on signe pas de CDI, mais on est en présomption de CDI. On a des droits, mais qu'il faut tout le temps aller chercher parce que les employeurs font comme si on n'avait pas de droits. Et puis en fait, ça m'a ouvert la porte à d'autres statuts ensuite. Donc finalement, aujourd'hui, j'ai à la fois du salarié multi-employeur, j'ai 5 employeurs, 5 journaux, magazines différents, mon auto-entreprise pour les ateliers d'écriture, et puis j'ai commencé à écrire des livres en littérature jeunesse, où là, j'ai été payée en droit d'auteur. Alors, ça a été un équilibre un peu long à trouver, parce qu'au départ, moi, quand j'ai été journaliste pigiste, indépendante, c'était vraiment subi, en fait. Il y a eu toute une phase, d'abord, où... de se dire, c'est pas parce que je suis indépendante que je vaux moins que les autres. Et ça, ce qui m'a aidée, c'est un séjour que j'ai fait à Montréal. C'était en 2010-2011, je suis partie un an et demi, et je bossais depuis environ 8 ans. J'ai rencontré plein de journalistes indépendants là-bas, parce que là-bas, pendant un an et demi, j'ai bossé pour la presse canadienne. Et donc, j'étais inscrite à une asso de journalistes indépendants québécois, et eux, ils étaient hyper fiers d'eux, quoi. En Amérique du Nord, la liberté d'entreprendre, l'indépendance, c'est très valorisé. Ils envisageaient leur relation à leur chef ou client, ou ben, avec les journaux avec lesquels ils bossaient, d'égal à égal en réalité, quoi. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, il y a une autre façon d'envisager le travail indépendant, sans se sentir dévalorisé, allons-y fort là-dessus, quoi. Et l'autre chose, c'est qu'avant de partir un an et demi au Québec, ben moi, je m'étais dit, je vais perdre tout mon réseau de piges ici, quoi, en France. Et j'avais peur de ça. À mon retour du Canada, j'ai retrouvé toutes mes piges, voire d'autres. Et puis, tout d'un coup, j'ai envisagé mon travail d'une façon complètement différente. En fait, j'avais plus peur. Et puis, j'ai commencé à être vraiment plus fière de moi-même. Et à ce moment-là, je vois bien que ça marche comme par effet de miroir, en fait. Quand t'as confiance en toi et que t'es fière de toi, ou que t'as conscience de ta valeur, bah, la personne en face de toi, elle a conscience de ta valeur aussi. Donc je me suis mis à négocier mes tarifs, par exemple, chose que je faisais pas avant. Je me suis mis à démarcher avec beaucoup plus d'audace. Et en fait, c'est surtout, voilà, abandonner la peur qui m'a aidée, Et ça m'a ouvert des horizons. Quand on est indépendant, on a une énorme souplesse qui fait qu'on peut gérer plein de projets en parallèle. On peut morceler son temps, travailler lundi sur tel projet, mardi sur l'autre, mercredi, et ça fait que on peut ouvrir plein de portes en même temps. Et moi, j'aime bien ça en fait. J'aime bien la diversité et j'aime bien avoir plusieurs projets en même temps. Si j'étais en poste, il faudrait que je choisisse en fait. Entre être journaliste à temps plein ou être autrice à temps plein. Et là, en étant indépendante, ça me permet de diversifier plusieurs facettes de moi que j'aime bien mobiliser. J'ai eu plusieurs phases. Au début, ça pataugeait un peu parce que quand tout le monde veut un rendu le même jour, c'est un peu la galère. Donc je pouvais avoir plutôt des vides et puis des périodes de surcharge vraiment de travail, vraiment trop de travail. Je me suis dit, ok, pour pas être trop stressée, je vais me faire un agenda, Google Agenda millimétré, genre à l'heure près, je sais exactement quand je dois rendre telle chose. Ça me permettait de voir que j'avais la capacité en temps de tout faire. Ça m'a aidée à un moment de millimétrer complètement mon planning, mais c'était trop en fait. C'était à la demi-heure près parfois. On sait que tout le boulot qu'on le fait, on le fait pour soi, mais ça demande une grosse organisation. Donc moi, j'avais mon Google Agenda un peu militaire, là. Et jusqu'au Covid, ça m'a bien aidée. Puis au Covid, là, tout est tombé d'un coup. parce que en presse, tout ce qui était calé, on a du tout tout décalé. Et là, je me suis dit que c'était chouette aussi d'avoir un emploi du temps plus souple. Et c'est aussi là que j'ai commencé à réfléchir à mon emploi du temps. Parce que quand on est travailleur indépendant, l'intérêt c'est la souplesse. Mais par exemple, quand on est une femme et qu'on est dans le foyer celle qui assume plus de charges domestiques et parentales, comme la plupart des foyers en France, on devient un peu celle qui va être dispo pour aller chercher les enfants à l'école, celle qui va être dispo pour aller l'emmener chez le médecin, parce que tu vois, comme toi, ton emploi du temps, il est souple, tu peux toujours t'arranger, ouais. Donc, j'ai eu une réflexion aussi là-dessus, pour ne pas subir mon emploi du temps. Donc ça aussi, c'est de la discipline, de vraiment morceler. Parce qu'un des pièges, quand on est en indépendant et qu'on a un emploi du temps souple, c'est de tout mélanger. On peut ne jamais décrocher du boulot. Donc j'ai décidé de compartimenter et puis d'avoir une réflexion un peu inverse. Au départ, je me disais, je prends tout le boulot qu'il y a parce que j'ai peur de pas gagner assez. Et ensuite, je me suis dit, ok, maintenant je me fais des tableaux prévisionnels de mes salaires. Et quand je vois que sur un mois ou sur une période, j'ai atteint le seuil que je veux atteindre, dont je pense que j'ai besoin, je dis non. Je refuse du boulot, en fait. Ce qui me motive à poser des noms, c'est juste, je me rappelle les états dans lesquels je me suis mise pour le travail à des moments donnés, alors qu'à la fin, t'as pas de médaille, alors qu'à la fin, c'est pas forcément reconnu ni valorisé, puisque ton travail, il est morcelé, donc chaque employeur trouve normal que tu lui fournisses le boulot que tu lui fournis. Mais en fait, la seule personne qui sait tout ce que tu fais, c'est toi-même. Et la seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi-même, justement. Parce que personne ne sait ta charge de travail. Moi, j'ai commencé à travailler de chez moi, mais ça a duré 6 mois, en fait. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé parce que je me sentais seule, parce que du coup, j'avais l'impression que je manquais d'élan, et je me sentais un peu hors du monde. Donc très rapidement, j'ai cherché à avoir un bureau partagé. Donc à Rennes, avec deux copines journalistes pigistes aussi, on a monté un bureau de journalistes pigistes au Club de la Presse. Ensuite, moi, je me suis retrouvée dans un coworking à Rennes. Et je suis dans ce coworking depuis peut-être 10 ans maintenant, et j'y suis à mi-temps. Moi, être entourée de gens, ça me donne de l'élan, ça me donne plein d'idées de sujets aussi. Pour moi, dans le collectif, on trouve des idées, on trouve de l'aide, du soutien, c'est hyper important. Donc en fait, j'ai tout le temps été dans des dynamiques collectives. Et puis, ça me permet d'avoir un bureau où je suis déjà mieux installée que chez moi, parce que finalement chez moi je bossais un peu n'importe comment dans mon canapé, donc j'ai eu des problèmes de tendinite, épaules, poignets, pouces. C'était un moment, il fallait vraiment que je réfléchisse à ma posture de travail. En fait, dans mon travail, j'ai une alternance entre des moments où je dois organiser des rendez-vous, des moments où je dois faire des interviews et des moments où je dois écrire. Et pour les moments d'écriture, j'aime bien être seule dans le silence, dans ma bulle, ça me rend plus efficace. Donc j'aime bien alterner ces moments de coworking où je suis plus dans les landes, avoir des idées, passer des coups de fil, démarcher. Et puis chez moi, j'écris. Et puis, ce que j'aime bien aussi quand je suis chez moi, c'est que ça me permet de voir ma fille qui rentre du lycée. Ça me permet d'avoir encore des petits moments avec elle. Ouais, c'est vraiment encore l'histoire de l'équilibre entre chez soi, dehors. Et puis, il y a aussi plein de moments où je suis sur le terrain. Toutes mes propositions de boulot m'arrivent sur mon mail ou sur mon téléphone, disons. J'ai tendance à y aller un peu souvent, être un peu trop accrochée à mon téléphone. Donc je travaille ça. Je travaille le mode ne pas déranger, où j'essaye de me mettre des plages horaires où je regarde pas mon smartphone. Parce que autrement, comme tout est lié au smartphone, des fois je sens que ça me pèse, ce téléphone. Ouais, il y a un enjeu clairement de quand même de difficulté à se déconnecter parfois. Les moments où j'ai eu du mal, c'était plutôt par rapport au sens de mon travail, pas tant par rapport à mon statut. Et au contraire, je trouve que mon statut m'a permis de me rapprocher plus d'un travail qui avait du sens pour moi. La question de la suite, c'est une question que je me pose clairement parce que là, je suis en gros à mi-parcours. Quand il y a eu les mobilisations retraite, j'ai été voir mon compte, mon compte retraite là. Et je me suis dit, ah ouais, ok, donc je serai en retraite à 67 ans. Comme j'ai ces statuts un peu mixtes là, je sais vraiment pas trop ce que ça va être ma retraite. Mais je me dis en tout cas, ah oui, je suis que à mi-parcours de carrière, à mi-parcours professionnel. Des fois je me dis, mais c'est pas possible, je me vois pas faire exactement la même chose pour toute la deuxième moitié. Ce qui est chouette quand on est indépendant, c'est qu'on n'est pas obligé de tout quitter et se réorienter. C'est pas binaire, c'est pas je suis journaliste, je quitte mon poste et je vais devenir apicultrice. C'est que je peux changer petit à petit certaines collaborations, commencer à faire des ateliers d'écriture, commencer à faire d'autres choses et c'est plus doux. Donc moi ça me convient assez bien. Je me pose des questions, c'est clair, je me dis aujourd'hui j'ai la pêche, je suis en bonne santé, j'ai encore plein d'idées à proposer à des médias. Est-ce que dans 15 ans j'aurai la même niaque? Je suis pas sûre. Et c'est vrai que c'est des statuts, l'indépendance, qui conviennent bien quand on n'est pas malade, quand on n'est pas quand on a la forme, quand on a du ressort, quoi. J'essaye de pas avoir peur et je me dis que jusque-là, les choses évoluent petit à petit, tranquillement, ça va continuer. Après, je suis quand même rassurée, je vais pas le cacher, d'avoir toute une partie salariat qui m'assure mes arrières. Avec cette base de salariat multi-employeur à la pige, je me suis arrêtée pour un congé mater, j'ai pu m'arrêter 6 mois. Si je suis malade, j'aurai ce petit parachute là quand même, ça me sécurise quand même. Après j'ai fait des papiers, des articles sur des femmes qui avaient traversé des cancers, des longues maladies alors qu'elles étaient travailleuses indépendantes sans le petit parachute que moi j'ai de salariat qui donne des droits, et je sais que c'est pas simple. Non, des fois je me pose des questions sur vieillir indépendante, mais en fait je crois que plus ça va, moins je m'en pose.